l'identité Abraham, Ur Kasdim réussit, le Derech Eretz, toute cette civilisation de Ur Kasdim produit finalement Abraham. Et Abraham peut être devant une bifurcation, soit donner au monde une répétition d'Ur Kasdim à travers Ishmael, voyez, soit donner au monde ce mystère d'Israël qui est cette matrice féconde de Sarah, etc. Mais il est le père des deux, et il est attaché aux deux. On comprend d'autre part que ce n'est pas Abraham qui sera Israël, il faut aller plus loin. Mais il n'y aurait pas eu Israël s'il n'y avait pas Abraham. Alors ici, le Midrash nous fait assister à ce débat intérieur, le hirur masculin, à ce débat intérieur d'Abraham, et pour nous dire d'ailleurs quelle est sa grandeur. Voilà, vous avez touché un point qui, d'une façon générale, s'appelle le Zechut Avot. Nous, les banim, les enfants de ces avots, de ces pères, nous ne comprenons pas leur mérite. Comme tu as dit, pour nous, ça va de soi. Dieu a tranché, c'est Isaac, oui. Mais les pères, eux, il fallait qu'eux intègrent cette, et entendent et comprennent et réalisent cette vision du Créateur dans son projet. Là, le Midrash, un autre Midrash, d'autre part, sur un autre texte de l'histoire d'Abraham, nous dévoile qu'il faut que la mère intervienne. Elle a une vision prophétique beaucoup plus lucide que le père. Et le père pourrait choisir soit pour l'un, soit pour l'autre. C'est la mère qui vient et qui dit non, c'est lui et pas celui-là. Et ça se voit surtout à propos de l'étape suivante pour Jacob et Ésaü. Là, c'est la même mère. Et Isaac, eh bien, et si on étudie une fois dans un autre sujet ce problème, Isaac, on comprend qu'il était dans le cas d'avoir à hésiter. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment s'il faut choisir Ésaü ou Jacob. C'est Rebecca qui intervient et qui brutalement dit « Toi le père, tu comprends rien. C'est moi qui les ai fabriqués. Je sais que ça passe par là et ça passe pas par là. » Vous voyez le problème? Et qu'est-ce que l'histoire nous a renvoyé comme illustration de cela? Tu es peut-être étonné, mais il y a des milliards de consciences pendant 2000 ans, les chrétiens, qui ont cru qu'eux étaient Israël. Et tu t'étonnes qu'Abraham ait pu croire qu'Ishmaël c'est son fils? Vous voyez comment dans la réalité ça se dévoile? Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Mais je vais te dire, n'importe quel chrétien a ouvert la Bible, il sait très bien que c'est les juifs qui sont Israël. Et cependant, pendant 2000 ans, ils ont été persuadés dans leur foi que c'était eux Israël. Il sait, mais il a un débat intérieur. Bien. Je voudrais ajouter quand même quelque chose. Au fond, ce que tu crains, c'est que le Midrash met en doute la foi d'Abraham. Pas du tout. Le Midrash nous met en évidence le mérite de la foi d'Abraham. Il y avait de quoi hésiter. Et pendant longtemps, il va hésiter. Tu as peur d'avoir ici un Abraham à Picoros? Comment Dieu t'a dit que c'est Isaac et toi tu penses Ishmaël? C'est ça son mérite. Vous comprenez le problème? Voilà. Bien. Oui.
Dans cette épreuve, Abraham traverse les niveaux de la nature pour situer l'épreuve, pour se fixer au niveau du yod d'Israël, de la promesse.
Qui veut dire le futur.
Le futur, et lui-même au niveau, disons, du ré, et non pas simplement de Abraham, au niveau vraiment du futur et de la promesse.
Oui, mais enlevez les lettres et posez votre question.
Alors la question, c'est celle-ci, justement, c'est à ce niveau-là. Ça me frappe de voir que c'est le yod et le ré, enfin au niveau du ya.
Non, enlevez les lettres, posez votre question sans les lettres.
Bon, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un prolongement de cette épreuve-là avec ce qui se passe au niveau de Ish et de Isha, il y a le niveau de nature de Esh.
Non, mais je vous ai dit enlever les lettres. Posez votre question, mais sans les lettres. Parce que sinon, on sera là demain matin. Encore demain matin. Quelle est votre question? Formulez-la, mais sans l'appareillage.
Dans le couple Abraham-Yitzhak, lorsqu'on parle ici, pour que ce soit précieux à tes yeux, est-ce qu'il y a une dynamique qui est la présence du Yah.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
De Dieu sous l'aspect, dans le nom de Yah.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais dites ce que vous voulez dire, parce que, écoutez, ne posez pas la question.
Je vous pose la question, vous m'arrêtez, vous me dites.
Non. Ne vous posez pas sous forme de question. Donnez la réponse vous-même. Vous comprenez ce que vous voulez dire?
Bien, je me demande s'il n'y a pas un rebond que nous voyons là, de quelque chose qui a commencé dans Ish et dans Isha, où il y a dans ces deux noms, dans une relation Ish et Isha, de deux êtres humains, où il y a aussi un aspect une dimension de nature de Hesh, hein. Mais si vous me dites de ne pas parler par les lettres hébraïques, c'est difficile.
Non, ce que je veux dire, je peux entrer dans une complicité de langage avec vous, mais nous sommes 50 ici, vous comprenez? Alors parlez un langage commun. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, vous parlez un langage codé. Comment?
C'est peut-être ça dont
il faut parler. C'est peut-être ça dont il faut parler. Écoutez, si je devine un contenu de votre question, vous voulez dire, ici nous avons une illustration possible du problème de l'amour entre deux personnes, et qu'il faut que l'expérience dévoile le prix de l'autre, la valeur de l'autre, pour que l'amour soit authentique. Et c'est vrai, en général, l'homme et la femme, Isha Isha, c'est vrai aussi, le père et son fils. Il faut que le père arrive à comprendre que le fils a de la valeur, de la même manière qu'il faut que l'homme arrive à comprendre que sa femme a de la valeur. Ça, je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Je préfère qu'on passe par le contenu notionnel plutôt que par le jeu de la forme des lettres, parce que là, c'est codé. Chaque personne ici a son vocabulaire différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est très fécond, comme instrument de recherche, de mettre des lettres, de jouer aux mots croisés, je ne sais pas comment dire, de mettre des lettres en croix, c'est ça les mots croisés, non? Mais enfin, d'arranger les lettres les unes avec l'autre, et puis des intuitions apparaissent. Mais ça, c'est dans le laboratoire. Ça, c'est dans le laboratoire. Et je pense qu'il est beaucoup plus important, lorsqu'on étudie en commun, qu'on ait un langage commun, c'est-à-dire le langage des notions, des idées, des termes. Je pense que c'est clair. Lorsque nous avons par tradition une illustration par le jeu des lettres, bon, alors c'est devenu objectif et on peut s'expliquer. Maintenant, je ne crois pas, pour vous répondre quand même, ce que le Midrash a enseigné entre Esh et puis Ish, Yud, Isha, He, se passe ici entre Abraham et Yitzhak, avec le Yud de Yitzhak et le He d'Abraham. Ça, je ne crois pas. Oui, je comprends bien, mais ça, je ne crois pas. Je ne veux pas être tranché. Si jamais un jour je trouve un texte qui puisse le baser, je vous envoie un télégraphe. Mais je ne vois pas. Non, tout simplement parce que ce Yud-là, en réalité, qui était le Yud de Sarah, est devenu Sarah, on le retrouve chez Josué, pas chez Yitzhak. Bon, alors, oui, je vous dis des choses farfelues. Pourquoi? C'est écrit dans les textes. Mais alors, qu'est-ce que vient faire Josué ici, etc.
Mais le
Yud
est dans Ishmaël aussi.
Mais non, laissez tomber ce Yud d'Ishmaël. Quel?
Vous allez envoyer un tétragramme.
C'est bon, on est déjà dans le mois de Hadar. Hein. Bien. Alors, revenons au problème. Première réponse du Midrash, Kede le Havebo Ve'enav. Je résume, je schématise. Ça veut dire que, à l'occasion de cette épreuve, il y a aussi ce fait-là. Dieu confirme à Abraham que la valeur d'avenir, c'est Yitzhak, et non pas Ishmaël. Mais ça ne veut pas dire que les étapes précédentes n'ont pas de valeur. Elles ont la leur. C'est clair. Ça, c'est la deuxième réponse du Midrash. On continue. Veliten lo schar al kol dibur ve dibur, et pour lui donner salaire de son épreuve pour chacune des paroles. C'est-à-dire, cette épreuve est à quatre niveaux. Et à quatre niveaux, elle a un sens. Prends ton fils. Et au niveau même Ishmaël, ça a une valeur. C'est clair. Ton unique. Et au niveau même Ishmaël, ça a une valeur. Celui que tu aimes. Et au niveau même Ishmaël, ça a une valeur. Et en fin de compte, il craque. Ce qui fait que tous ces mérites-là seront récapitulés dans l'épreuve. Mais qu'est-ce que nous apprenons d'important par ce biais? Bien, c'est que les étapes précédentes qui ont fait qu'Abraham, à travers toutes ses hésitations et ses bifurcations, peut-être Ishmaël, peut-être Isaac, toutes les étapes précédentes ont un sens et il n'y a rien eu d'inutile. À la fin des temps, tout sera récapitulé, tout sera sauvé, même Ishmaël. C'est un peu ce que je voudrais faire comprendre. Rien n'est inutile. C'est ainsi que la vérité passe dans la réalité, avec toutes ces approximations. Que deviennent les approximations? Eh bien, elles ont aussi un sens, elles ont aussi une valeur. C'est pas parce que c'est Isaac qui est préféré que ton fils, ton unique, ton aimé, même si c'est un autre, n'a pas de valeur. Est-ce que c'est clair? Vous voyez à quel point le Midrash est dense, est très riche. Veliten lo schar al kol dibur vedibur. Ça, j'ai interprété le Midrash en traduisant le mot dibur, les paroles du verset. Ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac. Mais il y a encore plus profond les paroles d'Abraham dans le Midrash. C'est-à-dire le fait qu'Abraham ait dit, mais j'en ai deux de fils. Lequel ? Le fait qu'Abraham ait dit, je les aime les deux, etc. De cela aussi il sera récompensé. Pour lui donner un salaire à chacune des paroles qu'il a dites. Il a vécu cette épreuve en escalier, si j'ose dire, étage par étage. Je pense que c'est clair. Là, il y a quelque chose d'important qu'on va résumer maintenant, deux choses à la fois que ce Midrash nous a dit. Il y avait, jusque-là, en Abraham, expectative, perplexité. Il a mis au monde ces deux lignées. Et puis, laquelle des deux, il faut intégrer l'évidence du choix. Vous comprenez, c'est pas évident du tout à l'autre fils d'Abraham, qui est le musulman, que c'est le juif que Dieu préfère. Vous comprenez? Ça lui est pas du tout évident. Et vous voyez, Abraham en lui, qui s'appelle Ibrahim, continue à douter. C'est Abraham en nous, qui s'appelle Abraham, qui lui est sûr. Mais il a fallu 3600 ans, et encore il y a des juifs qui doutent. Je pense que c'est clair. Et de la même manière, pour la descendance d'Isaac, il y a des Ésaü, ceux-là on les a eus, mais et qui se prennent pour Israël. Bien, ça leur fait plaisir. Bon. Le Yud, Non, j'ai dit, laissez tomber ce problème des lettres. C'est ça que j'ai dit. Hein? Écoutez, je vais vous dire. C'est Ishmael qui est présent. C'est ça que tu veux dire? Oui. C'est ça que tu veux dire. Voilà, le Yud d'Isra, c'est un Yud qui signifie un futur. L'homme qui rira dans le futur. Ça vaut peut-être la peine de rouvrir une parenthèse sur ce thème-là. Enfin, je vais d'abord répondre à votre question. Que signifie le mot Ishmael? La promesse faite pour Ishmael, c'est Uli Ishmael Shemarticha. Okay. Que signifie le mot Ishmael en hébreu? Qui est le sujet de l'écoute, là? Non. Non. Non, non. C'est Ishmael lui-même. Ishmael. C'est un homme qui écoutera Dieu. C'est pas que Dieu écoutera Ishmael. Le verset dit où Ishmael Shemarticha s'adresse à Abraham. En ce qui concerne Ishmael et ce que tu demandes pour lui, je t'ai entendu à toi, Abraham. Je lui donnerai sa récompense. Et sa récompense, c'est la richesse de ce monde-ci. Alors ils sont au temps de la récompense. Et puis ça sera fini, comme Job. Je pense que c'est clair. Où Ishmael Shemarticha. Et je lui ai donné sa bénédiction. J'ai dit le pétrole, mais c'est pas que le pétrole. C'est tout ce qu'on achète avec le pétrole, c'est le monde entier. Ils vont finir par acheter le monde entier. Et après, on verra ce qui se passera. C'est la fin du verset. Il y a Dobakol, mais il y a Kolbo. Il va y avoir un choc en retour. Je vous dis que ça. Comme on dit en arabe, soit, soit. Mais. En ismaélien. Mais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous trompez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de futur dans le mot Ishmael pour Ishmael. Okay? C'est différent, ce Yud de Ishmael du Yud de Ishmael. Ça veut dire, et là je veux quand même le caractériser, je suis un juif des pays d'Islam, donc je connais un peu la culture islamique. Le musulman est à l'écoute de Dieu. Le musulman entend Dieu. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que Dieu l'entend. Dieu entend Abraham. Ou l'Ishmael, Shemarticha, c'est indiqué pour Abraham. Il faut un jour que vous compreniez. Que Ishmael sait prier. Ishmael sait prier. La prière d'Ishmael est pure. C'est un verset. C'est l'expérience religieuse islamique, c'est quelque chose de colossal. Mais ce n'est pas Israël. La ligne prophétique du projet du Créateur, selon cette prophétie de la Bible, passe par Israël, pas par Ishmael. Ça ne veut pas dire qu'Ishmael n'a pas sa culture, ses valeurs, sa promesse, mais c'est autre chose. Alors on revient à notre question de tout à l'heure, il faut comprendre la perplexité d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est lui, cet homme qui a fait l'effort de passer de Abraham. C'est le premier psaume. Et avec cette expression, Ve'alehu loibol, et même ses feuilles ne se flétriront pas. Ça veut dire, lorsqu'on voit un arbre, et la destinée d'un arbre, la destinée des feuilles, c'est tragique. Pourquoi ? Parce qu'elles ne servent qu'à faire des fleurs qui feront des fruits, et quand le fruit est là, et ça continue par le fruit, par la graine du fruit, hein, alors la feuille, c'était quoi ? L'éphémère, le fumier de l'histoire, je ne sais pas comment dire. Mais le tzaddik, même les feuilles, ne se flétriront pas. Même les feuilles ont un sens. Vous comprenez un peu l'idée que j'essaye d'exprimer. C'est un peu ce sens-là. Pour lui donner salaire pour chaque parole et parole. Que chacune des étapes aura été, une fois la réussite ultime obtenue, a posteriori, aura été justifiée. Que rien de ce qui s'est passé depuis le commencement est privé de sens. Mais ça, il faudra attendre la fin pour le voir. Voilà ça, je l'époque. On continue donc le midrash. Hi d'arte de Rabbi Yochanan de Amar, et cela, c'était l'opinion de Rabbi Yochanan qui avait dit Lech lecha me'artzecha. Alors nous revenons à un verset précédent. Pour ceux qui ont écouté hier David Messas, vous vous rappelez qu'il a mis en évidence là aussi. C'est-à-dire, la première parole qui s'adresse à Abraham, c'était à Our Kasdim pour lui dire « Lech Lecha, quitte Our Kasdim et va vers l'avenir. » Et puis, ce « Lech Lecha », c'était la première épreuve, partir d'Our Kasdim. Mais ici, nous avons un « Lech Lecha et va sur le mont de Moria, au milieu du verset 2. « Prends Isaac, ve Lech Lecha et va pour toi, et l'Eretz à Moria, à la montagne de Moria, va aller où Sham Leola. » Alors déjà Rabbi Yochanan avait enseigné le même thème à propos du premier Lech Lecha, nous dit le Midrash, suivez bien sur le thème. Hidarte de Rabbi Yochanan, et c'était déjà l'opinion de Rabbi Yochanan, de Amar, qui avait dit au sujet du verset 1 du chapitre 12, Lech Lecha me'artzecha, lorsque Dieu a dit à Abraham, va de ton pays, zo irpachia shelach, irpachia ça veut dire ta contrée, ou mimolatecha, zo shkunatcha, et de ta patrie, ça veut dire du quartier de ta ville. Mibetabicha, et de la maison paternelle. Zebetabicha, c'est sa famille. Et la haret sacher areka, et tu iras vers le pays que je t'indiquerai, que je te montrerai. Littéralement, où je me dévoilerai à toi. Je reviendrai après sur ce asher areka. Alors, le même enseignement avait été donné pour la première interpellation d'Abraham au début de son histoire. Et Rabbi Yochanan avait enseigné pourquoi il ne lui a pas dit tout de suite. Va au mont de Moria. Pourquoi il lui a dit, va de ton pays, sors de ta contrée, de ta ville, de ta maison. Les degrés, les mêmes degrés. C'était la même chose. Pour lui rendre ce pays où il ira en fin de compte, Chaviv, pour lui montrer qu'il est précieux, qu'il est au sommet d'une échelle, et pour d'autre part lui donner salaire pour chacun des efforts de son voyage. C'est clair. Okay? Et là aussi, Rabbi Yochanan avait posé la question « Velama lo gila lo miyad » et pourquoi il lui a pas dévoilé tout de suite qu'il s'agit de Jérusalem, enfin de ce qui sera Jérusalem, « Kede le haveva ve'ena » pour la rendre, cette montagne de Moria, précieuse à ses yeux, « Veliten lo schar al kol dibur et dibur » et pour lui donner salaire à chacune de ses étapes. « Ve'al kol psia o psia » et à chaque pas qu'il fera vers la montagne de Moria. Je crois que Rabbi Yochanan avait des problèmes avec les juifs de la diaspora de son temps. Alors il leur a dit, chaque pas que vous ferez en direction de Har HaMoria, vous aurez un salaire pour ça. Vous voyez à peu près le problème. Et c'est vrai d'ailleurs. Ken.
Mais il devait dire le contraire, parce que quand on va d'une côte quand on va d'un part à l'autre, on va d'abord de la maison, après de la ville, après du pays.
Très bien. Alors de là, tu apprends que c'est le contraire. Comment ? Ça veut dire qu'il faut qu'il se détache de l'identité antérieure. La couche la plus profonde d'abord, celle à laquelle il est relié de façon plus générale à la culture de Our Kasdim en général, après ce qu'il a acquis de plus spécifique. Sa ville, l'équation personnelle de sa ville, après l'équation individuelle de sa famille. Il faut d'abord, parce que si tu commences à l'envers, tu n'arrives pas. Okay? Parce que tu vas Tu vas croire que tu as quitté le pays ancien, mais c'était ta maison que tu voulais quitter, pas le pays ancien. Alors tu vas aller dans l'autre pays, mais avec la nostalgie de ton pays. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut donc faire une ascèse dans le sens du verset. D'abord se détacher de la Mésopotamie, ensuite de la ville d'Ur-Kasdim, et après, du quartier, on a joué aux billes avec le fils de la concierge, ou la fille de la concierge, suivant le cas. Et puis après, de la maison. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là qu'il faut. C'est-à-dire la mutation d'identité doit d'abord atteindre la couche la plus profonde. Alors après, c'est plus facile. Je pense que c'est suffisamment clair. Hein? Je ne sais pas comment vous dire. Si Abraham, venant au pays de Canaan, n'a quitté que la famille de son père, mais pas la civilisation de Mésopotamie, il n'est pas arrivé à la famille de Canaan. Il n'a pas fait sa alia. Simplement, il a un problème avec sa grand-mère. Vous voyez le problème? Bien. Vous voyez que Rabbi Yochanan, il est contemporain. Bien. Alors, c'est là qu'on atteint le dévoilement de ce midrash. Amar Rabbi Levi Bahaita. Vous y êtes? Amar Rabbi Levi Bahaita. Et Rabbi Levi, ce Rabbi Levi enseigne, Shtei pe'amim k'tiv lech lecha. Ve'enanu yod'im ezo chaviva. Ça, c'est extraordinaire. Il y a écrit pour Abraham, deux fois, va-t'en. Va pour toi, va-t'en. Et nous ne savons pas encore lequel des deux va-t'en est le plus précieux aux yeux de Dieu. Celui qui a le plus de valeur. C'est-à-dire, quitter Ur-Kasdim ou arriver à Moria. C'est clair? Okay. Vous comprenez ce qu'il y a derrière? Je continue. Imarishuna washnia. Mima dirti velech lecha eleretz amoria. Heve shnia chaviva minarishuna. Par le fait qu'en fin de compte, il est écrit et va-t'en sur le Moria, alors je sais que l'intention du Créateur n'était pas qu'Abraham quitte Ur-Kasdim, mais qu'il était d'arriver à Moria. Est-ce que c'est nécessaire d'analyser? Je ne crois pas. Le juif vit l'expérience du dépaysement. Mais l'expérience du dépaysement, il y a deux moments. Quitter le pays ancien et arriver au pays nouveau. Alors trop souvent, on croit que cette expérience du dépaysement qui fait l'identité juive, c'est s'arracher de ce qu'il y avait avant. Non, c'est pas ça. C'est arriver là où il faut arriver. Vous avez compris la différence. C'est-à-dire que dès que Dieu avait dit à Abraham à Ur-Kasdim, Lech lecha me'artzecha, il lui disait déjà Lech lecha el eretz amoria. Seulement, il fallait que Abraham construise ce chemin. Et il aura salaire pour chaque pas du chemin construit, du chemin cheminé, du cheminement. J'ouvre ici, si vous voulez, une parenthèse. Ça nous fera comprendre un peu aussi le même thème par rapport à la sortie d'Égypte. Quelle est l'importance de la sortie d'Égypte? On pourrait croire que c'est quitter l'Égypte, et il faut quitter l'Égypte. La servitude, la maison d'esclavage, l'aliénation, etc. Et puis aller au désert, à la yeshiva de Moshe Rabbeinu. Okay? On a quitté l'Égypte. Oui, mais on est perdu au désert. Le sens de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver à Jérusalem. C'est pas de rester au désert. Fuse dans la yeshiva de Moshe Rabbeinu. Je pense que c'est clair. Et c'était pas n'importe quelle yeshiva. Hein? La yeshiva de Moshe Rabbeinu. Hein? Pour ceux qui devaient y passer. C'est-à-dire, vous voyez, il y a l'expérience du commencement du voyage et l'expérience de la fin du voyage. Dans les deux cas, il y a l'ech lecha. Et on ne sait pas finalement qu'est-ce qui est plus important, se mettre en route ou arriver. Alors Rabbi Levi nous dit, maintenant nous savons que c'est arriver qui est important. Alors pour arriver, il faut se mettre en route. Donc il faut se mettre en route, mais pour arriver. Vous rappelez, je vous ai raconté une fois, je ne sais pas si c'est à vous, et l'impression que j'ai eue à Montréal, où s'est constituée une communauté sfarade de Nord-Africains du Canada français, et la communauté des Américains, comme on les appelle, puisque la majorité vient du Maroc. Et j'avais été frappé de cela. C'est qu'ils ont réalisé avec beaucoup de ferveur d'ailleurs, la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le point de départ. Mais avec un chemin énorme, comment il s'agit d'aller à Jérusalem, en faisant le tour de la Terre. Alors, première étape, le Canada. Deuxième étape, l'Indonésie. Troisièmement, le Japon. On finira par y arriver. Mais vous voyez, l'année prochaine, à Jérusalem, mais en faisant le tour de la Terre. Mais il y a en tout cas, c'est cette ferveur du Lech Lecha et reste juif. Vous voyez, cette capacité du voyage et je reste juif. Et seulement, voilà, le Midrash nous dévoile que le mérite n'est pas d'entreprendre le voyage, mais d'arriver quelque part. Mais ce quelque part, c'est clair, c'est Eretz Amoria. Oui, oui, vous les connaissez. Oui. Et c'est ça. Vous voulez que je vous réponde? De là, on apprend que ce n'était pas un commencement. C'est un long voyage. Bon. Seulement, il faut bien savoir où on va. C'est ça le problème. Très rapidement, pour l'expression, puisqu'il a été cité par ce Midrash, c'est donc le premier verset du chapitre 12, pas notre chapitre, le commencement de l'histoire d'Abraham. « Et la haaretz asher areka, et va vers le pays que je te montrerai. » Où est la difficulté? La difficulté est grande. C'est qu'il faut arriver au pays en question pour savoir que c'est là-bas. Ce n'est que lorsqu'Abraham arrive que Dieu se révèle à lui pour lui dire « C'était bien là que je t'avais donné rendez-vous. » Est-ce que vous entendez la difficulté? Au pays, alors je modifie un peu la traduction, au pays où je me dévoilerai à toi. Au point de départ du voyage, il y a une perplexité inouïe. Où est ce pays? Vous voyez, là il y a le grand thème que la littérature, dont la littérature s'est emparée et qu'on appelle l'utopie. C'est-à-dire le pays de nulle part. L'essentiel, c'est de le chercher, mais surtout pas y arriver. Oui, quel est le problème? C'est-à-dire que c'est une vertu qui consiste à chercher ce pays de la promesse. Et l'essentiel, c'est d'être en voyage. Alors là, il y a un piège. Je pense que c'est bien clair. Pour répondre à la question, je me réfère simplement à une donnée historique de la tradition elle-même. La famille d'Abraham savait où se trouvait ce pays. Parce qu'ils étaient déjà exilés de ce pays-là. La famille d'Abraham, c'était des Hébreux exilés du pays de Canaan et qui étaient en exil en tant que peuple juif avant la lettre à Our Kasdim. Et lorsque Abraham sent que le moment est venu de décrocher et de revenir, alors il sait où il revient. Est-ce que vous avez bien entendu la question et la réponse? Et là, je vais vous en donner tout de suite la preuve dans le texte. Pour ceux qui ont le livre de Bréchit, vous l'avez à la fin de la parashat Noar, dans le verset suivant. Verset 31 du chapitre 11. Avant qu'on entende, ça sera le verset 1 du chapitre 12, que Dieu dit à Abraham, va vers ce pays que je te montrerai. Plus haut, au verset 31 du chapitre 11, va Ikar Terach et Abraham Beno. Et Terach prit Abraham, son fils, Vet Lot ben Haran ben Beno, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, son petit-fils, Vet Sarai Kalato, et Sarai Sabru, la femme d'Abraham, et chez Abraham, Beno, son fils, Vayetzeu Itam, et toute cette famille sortir avec lui, Terach, Meur Kasdim, de Ur Kasdim, la Lechet Arza Canaan, pour aller vers le pays de Canaan. C'est-à-dire l'initiative que prend Terach pour décrocher de Ur Kasdim, diriger sa famille vers le pays de Canaan, il sait où il va. Mais ce n'est pas un pays de Canaan mythique. Vous savez, l'histoire d'Israël se dirige vers le pays de Canaan. Et puis voilà, l'échelle individuelle, les individus se dirigent vers un Canaan utopique, vers un Canaan mythique. Mais le Klal va, finalement, parce qu'il sait où il va. Tout simplement, pourquoi il sait où il va? Parce que c'est de là qu'il était venu. Il sait où il revient. Cette famille de Terach, la famille d'Abraham, encore une fois, ce sont des Hébreux en exil à Our Kasdim. Ce ne sont pas des Babyloniens, ce ne sont pas des Chasdéens ou des Chaldéens. C'est Abraham à Ivry. Ils étaient exilés là-bas. Et au moment où vient le temps de décrocher pour ne pas se perdre dans la stérilité de cette civilisation achevée dans tous les sens du terme, achevée, finie, alors ils savent où ils doivent revenir. C'est bien clair. Voilà donc quelle était la question. Il faut y arriver pour savoir que c'est là-bas. Mais ils savaient où ils devaient aller. Je pense qu'il faut l'entendre à deux niveaux. Leur être profond sait où il va. Mais leur être conscient attend la preuve que c'est bien là-bas. Peut-être là vous avez un peu la réponse de votre question. Non, mais je vais quand même vous répondre parce que votre question est importante. Vous rappelez, je vous avais cité une fois cet apologue du Rav Kook, le shidour, l'entrevue de mariage. Un jour, un fiancé qui a demandé une jeune fille, un jeune homme, qui a demandé une jeune fille en mariage. Elle ne voulait pas de lui. Vous connaissez là-dessus. Elle ne voulait pas de lui, alors le jour de l'entrevue, au lieu de se farder, de se mettre en beauté, elle s'est enlaidie. Alors il y a eu l'entrevue, le fiancé a dit, celle-là, j'en veux pas. Moralité, en réalité, c'est elle qui n'en voulait pas. Et non, il lui dit, t'es pas belle, mais en réalité, c'est elle qui pense, mais il est pas beau. Bravo. Vous avez compris ma réponse au Parlement. C'était pour les Juifs de Montréal, que j'aime beaucoup, vous savez. Et vraiment, chaque fois que je passe une soirée là-bas, c'est très bien pour une soirée.
Alors, il a dit
j'ai entendu ça la fin. Oui, catastrophe. Alors, en tout cas, dans le contenu du Midrash, finalement, nous avons quelque chose d'assez important et que je vais maintenant formuler. En fin de compte, c'est bien la dernière épreuve d'Abraham que nous avons ici. Mais dès le début, c'est ça qui était annoncé. Dès le début de Lech Lecha, il s'agissait de se préparer à ce qui va se passer à Moria. C'est bien clair. Okay. Bien, alors ce que je vous propose, c'est de changer de thème. On va vous distribuer tout de suite les phrases suivantes et nous aborderons le verset 3. Bien, qui veut faire cette distribution? Abraham Baboker. Et Abraham s'est levé au matin. Le mot de Vayashkem signifie que c'est de très bon matin. Les Hashkem, c'est Baboker, ça veut dire devancer même le matin. Il y a ici tout un thème pour lui-même, et ce n'est pas le Midrash que nous allons étudier, et qui est que Abraham est l'homme du matin. La Mida, disons la vertu d'Abraham, c'est celle de Chesed, qui est l'expérience du matin. L'expérience de Chesed est au matin. Vous rappelez le verset? Lehagid Baboker Hasdecha. Le matin, nous expérimentons que le monde est un monde de chesed. Dans la fin de la journée, ça c'est l'expérience d'Yitzhak, on est accablé par le monde, c'est le monde de l'accablement. Et la nuit, ça c'est Jacob. Mais Abraham est le patriarche du matin, donc la prière du matin sera reliée à l'identité d'Abraham. Mais nous abordons tout de suite ce que le Midrash veut nous enseigner ici par rapport au thème de Hakelat Yitzhak. Vayashkem Abraham Baboker, Vayachavosh et Hamoro. Et Abraham se leva de bon matin, et il, c'est-à-dire qu'il ne perd pas de temps, il est Zariz Bamitzvah. Il est empressé à réaliser cela. Et pourquoi le matin? Bien, c'est encore un thème en écran, si vous voulez. Mais le Midrash veut dire Vayachavosh et Hamoro. Et il va, la Havosh, ça veut dire sangler son âne. Il prépare lui-même sa monture, si j'ose dire. La question que le Midrash va poser, nous allons le lire, c'est pourquoi Abraham lui-même fait cela? Première réponse d'un moussard immédiat, une mitzvah est plus grande quand on la fait par soi-même, même si le véhicule de la mitzvah pourrait être préparé par d'autres. Abraham a des serviteurs. Pourquoi ce ne sont pas les serviteurs qui font ce que Abraham va faire là? Lui-même va sangler son âne. Alors, lisons d'abord tout le Midrash. Et puis, je reviendrai phrase par phrase. Vayashkem Abraham Baboker Vayachavosh et Hamoro, ça c'est le verset. Amar Rabbi Shimon Mer Yochai. Rabbi Shimon Mer Yochai a enseigné. Ahava mais Kalkelet et Ashura. L'expression elle-même, en elle-même est un thème de la sagesse juive. Arava, mais Kalkelet et Ashura. Qu'est-ce que c'est Shura? Shura, c'est la rangée, l'ordre de préséance. Chacun, suivant sa dignité, est assis à un rang différent. Le rang de chacun. Regardez le terme de rang. Arava, le fait d'aimer. Mais Kalkelet et Ashura, ça veut dire mais du désordre dans la hiérarchie des dignités. Ça veut dire, Abraham aime tellement ce qu'il va faire pour l'amour de Dieu, si vous voulez, qu'il bouscule la politesse, il bouscule les règles de la dignité. Ce n'était pas à lui à s'occuper de l'âme, mais voilà que lui va s'occuper de l'âme. Il aime tant ce qui lui a été demandé qu'il va déchoir de son caveau, de sa gloire, de sa dignité. Alors c'est une expression qui est entrée dans la, comment on dit, un hébraïsme, un idiome de la sagesse populaire juive, qui est beaucoup employé d'ailleurs dans l'hébreu moderne, pour parler de la complaisance, par exemple. Ahava mekalkelet et ashura. L'amour risque de mener à la complaisance. Vous voyez à peu près comment on pourrait l'exprimer en français. Il y a un ordre de préséance. C'est ça la shura, chacun son rang, et l'amour met en question des valeurs de dignité qui sont plus que la politesse d'autre part. Donc se méfier d'un amour débordant. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire là pour Abraham? Nous allons essayer de l'étudier. Principe. Premier principe, Ahava mekalkelet et ashura, vesina mekalkelet et ashura. La haine aussi bouscule les rangs de dignité. On va nous mettre en présence l'opposition de l'identité d'Abraham et celle de Bilham. Chez Bilham, ce prophète qui va être appelé par les ennemis d'Israël pour maudire Israël, il y a une scène analogue. Lorsque Balak va envoyer Bilham pour cette malédiction pour Israël, alors on voit une scène analogue que lui aussi a deux serviteurs, lui aussi va prendre non pas un âne mais une ânesse, et nous aurons à apprendre pourquoi chez Abraham c'est un âne au masculin, Hamor, alors que chez Bilham c'est une ânesse au féminin, Aton, et puis il va lui aussi s'empresser et sangler lui-même son ânesse. Vous voyez les deux cas qui seront mis en présence. Abraham, le motif qui lui fait bousculer la préséance, si j'ose dire, c'est l'amour. Alors que Sina, le motif qui lui fait bousculer la préséance, c'est la haine. Et lui aussi va sangler lui-même son ânesse. D'où cette expression que formule le Midrash, nous le devons à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qui cite un idiome de la sagesse juive et qui est entré dans le langage. Ahava mekalkelet et ashura, Sina mekalkelet et ashura. Rien ne fait obstacle à l'impétuosité de l'amour, même pas la dignité, rien ne fait obstacle à l'impétuosité de la haine, même pas la dignité. Je pense que ça peut être rattaché au problème très général de l'acte gratuit. Il n'y a qu'un seul acte gratuit et qui a deux visages, c'est soit l'amour, soit la haine. Un véritable amour est gratuit. Et une véritable haine est gratuite. C'est quand l'affectivité devient la motivation de la conduite que la politesse est en danger. Je pense que c'est là le thème général philosophique, disons. Mais revenons à l'analyse du Midrash. Ahava mekalkelet et ashura, l'amour bouscule la hiérarchie, dirtiv, ainsi qu'il est écrit pour nous. Et il sangla lui-même son âne. Velo hayalo kama avadim, n'avait-il pas tous les serviteurs qui pouvaient faire cela? Et là, ahava mekalkelet et ashura. C'est donc que vraiment l'amour bouscule la dignité. Vesina mekalkelet et ashura, la haine aussi. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit à propos de Bilham. C'est donc dans les Nombres, chapitre 22 là aussi. Verset 21, Vayakom Bilham Baboker, et Bilham se leva de bon matin, Vayakhavosh et Atono, et il sangla son ânesse. Velo Hayalo Kama Avadim, n'avait-il pas tant de serviteurs? Et là, Sina Mekalkelet et Ashura, mais c'est que la haine bouscule la préséance. Je vous finis de lire la lecture du Midrash, comme ça nous préparera pour les études suivantes. D'autres cas vont nous être cités. Ahava mekalkelet et ashura. Voilà un autre cas où l'amour bouscule la préséance. À propos de Joseph, chez Néhémar, dans Genèse 46, 29, « Vayesor Yosef Merkafto, vayahal likrat Israël abiv. » Et Joseph a lui-même préparé son char, Canada, le char, Ken, et Joseph a lui-même préparé son char, et il est monté à la rencontre d'Israël. Rappelez, lorsque Jacob, en fin de compte, accepte de descendre en Égypte, c'est Joseph lui-même qui va préparer son accueil. Or, Joseph était le grand dignitaire de l'Égypte. Il était le dirigeant du pays. Vechi lo hayalo le Yosef kama avadim. Est-ce que Joseph n'avait pas tant de serviteurs? Et là, ahava mekalkelet et ashura. Voilà encore un exemple où l'amour bouscule la hiérarchie. Sina mekalkelet et ashura. Un cas pour la haine. Dirti vayesor et trichbo. Lorsque le pharaon va se jeter à la poursuite d'Israël sorti d'Égypte, et on aboutira au passage de la mer Rouge, Vayesor et Trichbo, le pharaon lui-même va préparer son char. Le même verbe est employé et pour Joseph et pour le pharaon. Pour Joseph, Merkafto, Merkava, pour le pharaon, Rechev, c'est la même racine, mais le mot est différent. Velo Hayalo Kama Avadim, est-ce que le pharaon n'avait pas lui aussi tant d'esclaves? Et là, Sina Mekalkelet et Tashura, mais nous voyons bien là que la haine bouscule le rang. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, à propos de Joseph contre le pharaon, ce même Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait mis en évidence Bilam et Abraham, et enseigne ceci, Tavo, Chavasha, Veta'amod al-Chavasha. Viendra cette préparation que Abraham a fait lui-même de son âne, et elle s'opposera à la préparation que Bilam a fait de son ânesse. En d'autres termes, vous avez compris l'idée. Le mérite de l'empressement d'Abraham va nous aider contre le danger de l'empressement de Bilam. Tavo Chavasha veta'amot al Chavasha. Tavo Chavasha she Chavash Abraham avinu lelach velaasot retzono shel mi she'amar vayaholam. Viendra cet empressement d'Abraham à sangler son âne, et on verra déjà aujourd'hui qu'est-ce que cela veut dire, pour accomplir la volonté de celui qui a dit il y a eu un monde. Et vous voyez tout de suite quelle est la méthode du Midrash de nous généraliser le propos. Veta'amod al-Chavasha shravash Bilam, et elle s'opposera, elle contrecarrera, puisqu'il s'agit de du même geste qui va déclencher une histoire, elle contrariera, si vous voulez, ce qu'a fait Bilam pour aller et maudire Israël. Tabo Asara avec Armand à la Asara, et de même, le fait que Joseph ait préparé lui-même nous aidera contre le fait que c'est le pharaon lui-même qui s'opposera. Je lis maintenant, Tabo Asara chez Asar Yosef, Likratabiv, et Armand à la Asara chez Asar Paro, les larves l'irdof et Israël. Tani Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael a généralisé cet enseignement de la manière suivante. Tavo Chereviad, Veta'amod al Chereviad. Viendra un glaive qui s'opposera à un glaive. Lequel? Tavo Chereviad, chez Asa Abraham Avinu, le glaive qu'Abraham a levé pour sacrifier Isaac. Chenemar Vaishlach Abraham et Yado Vaikartam Acheret. Ainsi qu'il est dit, et Abraham envoya sa main et prit le couteau, l'Ishrot et Beno, pour égorger son fils, Veta'amod al-Chereviad, et elle s'opposera, cela s'opposera à la menace du glaive, de quel glaive? Du glaive du pharaon, chez Amar Paro, lorsque le pharaon a dit, Arik Harbi Torishem Oyadi. Je dénuderai mon glaive, les Arik, ça veut dire le quitter du fourreau. Je sortirai mon glaive du fourreau, Torishem Oyadi, et ma main pourra vaincre, hériter de mon ennemi. L'ennemi, c'était Israël. C'est un verset qui se trouve dans Shiratayam. On a cité ce verset, d'ailleurs, au moment de la guerre de Kippour, lorsqu'il y a eu la percée du côté de l'Égypte, et que le général s'appelait Arik. Il a dit Arik Harbi, mon épée, c'est Arik. Arik Sharon, ok. Alors revenons donc, le premier thème qui apparaît, c'est la raison pour laquelle le Midrash veut nous opposer ce mérite d'Abraham d'avoir lui-même